Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Destan, la fondatrice et CEO de la marque de papier toilette responsable Poppy. Coucou Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Salut Alice, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là également.
Tu sais que je suis tombée sur ton profil en écoutant un podcast d'ailleurs créé spécialement pour le confinement. Tu vois lequel c'est tous ensemble?
Ouais, très bien.
Tu es passée dedans?
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et en fait, j'écoutais. En fait, j'ai trouvé ton concept génial. Et puis surtout, en cette période, j'avais plein de questions à te poser. Et voilà, je me suis dit que ça allait être l'occasion de partager ça aussi avec les internautes de l'empreinte.
Avec plaisir.
Déjà, j'ai envie qu'on parle de toi avant de parler de Poppy. Mm-hmm. Puis c'est quand même super mignon comme nom. Ça me fait penser à un petit chien, mais je ne sais pas pourquoi.
Mais... C'est un poussin, mais effectivement, Poppy, ça peut faire penser au petit chiot, effectivement. Oui.
N'importe quel animal de compagnie, si quelqu'un a appelé son animal de compagnie Poppy, en vrai, je pense. Mais déjà, je vais revenir sur toi. Tu as, donc, puisque tu as fondé ta boîte, quel est ton parcours professionnel, mm-hmm. ta démarche personnelle? Raconte-moi tout.
Alors, moi, j'ai un profil d'école de commerce assez classique, assez généraliste. Je savais en sortant d'école que je voulais créer... ma boîte, ou en tout cas, tu sais, comme plein de gens qui sortent d'école, j'étais persuadée que je voulais le faire, mais à 25 ans, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte que je savais pas faire grand-chose, et donc je me suis dit, plutôt que de créer une boîte de rien, sans idée en plus, je vais plutôt m'associer à des gens qui ont déjà fait un projet, tu vois, comme ça j'aurai l'avantage, on va dire, de l'entrepreneuriat, mais pas les inconvénients. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis associée avec deux fondateurs d'une agence de notation de start-up qui venait d'être créée à l'époque, en 2015, et j'étais la première salariée. Donc voilà, ça c'était mon premier pari, on va dire, entrepreneurial. Il se trouve que ça a super bien marché parce qu'on est passé de 4 à 60 en 4 ans, on a ouvert 4 pays, voilà. Donc c'était vraiment, on va dire, la stratégie de croissance classique de la start-up française qui lève de l'argent, qui se développe bien. Mais finalement, au bout de 3 ans et demi, dans ce cas-là, quand t'es en très forte croissance, ton job en tant que dirigeant, c'est quand même beaucoup de recruter, tu vois, de former, etc. Donc t'as un peu moins les mains dans le cambouis, et surtout tu vibres un tout petit peu moins sur des questions qui te tiennent à cœur, parce que t'as beaucoup moins le temps aussi. Et donc je me suis dit, je vais faire un projet en parallèle de ma boîte, parce que à l'époque, j'avais pas du tout l'intention de la quitter, hein, cette boîte précédente. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de capitaliser sur une forêt de pins qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs avec ma famille dans les Landes. Je me suis dit, en hobby, je vais essayer de voir comment je pourrais dynamiser cette forêt-là. Qu'est-ce qu'on fait avec du bois, du papier? Quel est le papier qui s'utilise tous les jours et par tout le monde? T'en as pas 30 000, il y avait entre autres le papier toilette. Il se trouve que celui-là me faisait marrer, donc comme boîte en parallèle de mon job, c'était parfait. Sauf qu'en fait, Poppy, ça m'a pris vachement de temps, et donc en avril dernier, donc ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an, j'ai décidé de vendre les parts de ma boîte précédente pour financer le lancement de Poppy. Et donc voilà, je me suis lancée en avril 2019 sur ce projet-là.
Donc ça a un an, c'est ça Poppy? Alors, et tu pensais qu'il allait avoir un confinement et une ruée sur le papier toilette il y a un an?
Alors, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais c'est incroyable la chance que t'as. » Parce que, déjà, au départ, lancer une boîte de papier toilette en ligne, les gens y croyaient pas forcément. Mon usine compris, d'ailleurs, était pas... avait un petit peu peur, pensait que c'était pas un produit sexy, ce qui est vrai. Et en fait, on peut raconter plein de choses, tu vois, autour du papier toilette, sur la santé, sur l'écologie. Il y a plein de choses à dire. Et donc déjà au départ, les gens n'y croyaient pas trop. Et alors en plus que ça ait marché avant le confinement et qu'en plus après il y a eu tout cette espèce de bruit autour du papier toilette pendant le Covid, bah c'est sûr que j'ai d'une certaine manière eu un peu de chance. Après, ce qu'il faut voir et relativiser, c'est qu'on vend aux entreprises et que là, autant te dire que ce modèle économique pendant la crise, malheureusement, PQ ou pas, il s'est arrêté quoi.
Bien sûr. Et du coup donc tu as vu une hausse des ventes ou pas, finalement, l'un dans l'autre, avec le déficit lié aux entreprises et le boom lié à la consommation? Et en plus, est-ce que les Français consomment plus de papier toilette ou finalement ils stockent et puis à un moment ils vont devoir épuiser les stocks de papier toilette? Est-ce que ça va pas aussi se répercuter sur les ventes de Poppy?
Bah, très juste, en fait, c'est ça, hein, pendant le confinement, il y a eu une espèce de vague, je dirais, de mi-mars à fin mars, où les particuliers ont beaucoup acheté, et c'est surtout, j'ai eu une croissance qui est une très bonne croissance, mais comme tous les mois depuis le lancement commercial en septembre, mais par contre les gens ont acheté en plus grande quantité, donc comme tu dis ça constitue des stocks. Ça se répercutera, oui, après on fait quand même de l'acquisition chaque mois, donc je suis pas inquiète là-dessus. Par contre, disons que le boom des particuliers a compensé la perte en B2B, mais voilà, on a hâte quand même que les entreprises puissent reprendre. À la fois,
et puis surtout que c'est de la vente en ligne et qu'il y a eu vraiment un engouement pour la livraison. Les gens voulaient plus se déplacer en magasin, donc je pense que ça a aussi servi ton business, non?
Complètement, et ça a aussi servi le business de la revente, parce qu'on est aussi revendu dans des épiceries, chez des revendeurs. On est revendu maintenant chez Carrefour, dans certains Carrefour bio par exemple. Et c'est vrai que...
Je vais aller voir en bas de chez moi s'il y a Poppy. Il y a Carrefour bio en bas de chez moi, donc j'irai faire mon 007 du papier toilette.
Ouais. Bah, sinon, je te dirais. Mais donc en fait, ça a poussé aussi les revendeurs et ça les a inciter à se tourner peut-être vers des solutions un peu plus écologiques, parce que moi j'ai le sentiment que les gens n'ont pas non plus abandonné ces aspects-là pendant la crise, au contraire. Donc ça a servi aussi notre engagement et social et écologique, puisqu'on a aussi un engagement très fort sur la partie Made in France, dont on parlera sûrement après.
Ah bah, forcément. Moi, donc, du coup, si je retrace son parcours, tu es surtout une entrepreneur dans l'âme de base. Ensuite, il y avait toute cette histoire des Landes, donc cet amour pour les Landes. Mais est-ce que tu es une écolo, parce que je trouve que le terme est un peu fort. Est-ce que tu as toujours eu ces convictions écologiques ou pas? Ou finalement, c'est arrivé un peu comme une opportunité de business? En toute transparence, hein, y en a plein qui me disent, moi, j'ai suivi juste, ça avait le vent en poupe, j'ai suivi le truc. De toute façon, on encourage le business responsable. Donc, peu importe la source, c'est sûr que quand c'est convaincu, c'est clairement plus sympa, même en storytelling, c'est carrément plus sympa. Mais parfois, il y en a plein qui admettent, moi, clairement, du business là-dessus, je l'ai fait, quoi.
Alors, c'est une très bonne question et j'aime bien que tu me la poses comme ça aussi, franchement, parce que...
Moi, je suis cash, hein, tout avec
non, mais j'entends... c'est vrai que les réponses, j'entends souvent des réponses du genre « je privilégie le vélo », etc., ce qui est très bien. Moi, en fait, je suis d'accord avec toi, j'aime pas trop le terme d'écolo, déjà parce qu'il a il a souvent une connotation politique, et moi, justement, j'essaie vraiment de séparer le business de la politique. Et donc moi j'aime bien parler de bon sens plutôt. Donc effectivement, y a des choses qui me parlent depuis très longtemps. Par exemple, je prends pas l'avion, je mange pas de viande alors que j'adore ça, et je le fais beaucoup plus pour des raisons écologiques que pour des raisons de souffrance animale. Alors qu'au départ j'avais plutôt fait ça justement en me disant entre guillemets un veau c'est mignon, un agneau c'est mignon. Puis après c'est vraiment devenu une question écologique, et notamment il y a un super documentaire de Netflix qui s'appelle Cospiracy, je sais pas si tu l'as vu, qui est vachement bien.
Je crois que je l'ai vu. C'est celui qui est traumatisant ou pas?
C'est pas vraiment traumatisant, mais par contre ça t'apprend vachement de choses sur le fait qu'en fait la consommation de viande c'est dramatique.
Moi, je suis veggie, hein, donc ça me... Mais moi, c'est par goût. Alors, c'est presque une chance, j'ai envie de dire, parce que j'aime pas la viande. Si, j'adore le poulet, donc voilà, mais j'aime pas la viande. Donc, ça, c'est presque une chance, en vrai. Hein.
C'est vrai. Moi, en fait, je suis pas du tout moralisatrice, donc j'aime bien pratiquer le bon sens dans ma vie quotidienne. Après, il y a plein de choses que je fais pas bien du tout, hein, parce que soit j'ai la flemme...
C'est ça, on peut pas être parfait. Et puis, il y a pas de perfection. Moi, je suis une flexi, c'est pour ça que je dis que je suis une flexi écolo. Je marche 20 bornes par jour, comme toi, je prends pas de transport. J'encourage les gens à consommer de façon responsable, et même parfois de s'octroyer un petit peu de viande, mais pas tous les jours dans l'assiette, et puis varier avec des protéines. En fait, c'est vraiment encourager les bonnes manières, et d'ailleurs tous les médecins l'encouragent maintenant. C'est quelque chose, juste varier son alimentation, encourager la production locale, c'est du bon sens, c'est ce que tu disais.
Ouais, tout à fait. Et donc, je me définirais pas comme écolo, mais j'essaie de faire au mieux. Et surtout, avec Poppy, j'avais vraiment à cœur de pas avoir une marque qui est moralisatrice, tu vois. L'idée, c'est de faire rire les gens sur des sujets qui sont pas forcément rigolos. La déforestation, c'est pas très marrant. On essaie d'expliquer pourquoi on utilise du recyclé, pourquoi c'est mieux, mais toujours avec un ton un peu humoristique. Et je préfère cette écologie des petits pas plutôt qu'un côté trop radical qui peut faire hyper peur et du coup démoraliser le plus grand nombre, tu vois.
Tout à fait. Merci pour ta transparence d'ailleurs, Audrey. Maintenant, j'ai envie du coup que tu me racontes toute cette histoire de Poppy et tout ce que tu racontes à tes clients ou futurs ou prospects pour les convertir en clients dans cette façon de consommer. Parce que c'est vrai que du coup, le papier toilette, c'est vrai que c'est du papier. Donc, qui dit papier dit déforestation pour beaucoup. Mmh. Et toi, comment ça marche? Comment tu recycles? Enfin, comment, voilà. Raconte-moi un petit peu ton business. Okay.
Donc en fait, quand j'ai lancé Poppy, comme je te disais au départ, j'étais partie de, j'avais envie de capitaliser sur quelque chose que j'avais déjà, parce que bon, je suis pas particulièrement innovante, donc je me suis dit, je vais essayer d'utiliser l'existant, quoi. Sauf qu'en fait, et il se trouve qu'en France, quand t'as des forêts, t'es obligé de les nettoyer tous les ans, notamment pour éviter les incendies.
Quand tu dis qu'il y a une forêt, vous avez carrément une forêt à vous?
Alors en fait,
parce que les pins, j'adore, je trouve ça magnifique, moi.
C'est des pins particuliers. Dans ce cas, ça doit être les mêmes pins, effectivement. Alors oui, mais c'est une, ça se faisait beaucoup à l'époque, et puis c'était pas de très très grande valeur à l'époque où mes arrière-grands-parents l'ont acquise, cette forêt-là. Et en fait, c'est une petite, relativement petite parcelle hein, par rapport à ce qui peut se faire là-bas. Donc on n'est pas du tout on n'est pas un gros industriel. Et en revanche, t'es quand même tenu de nettoyer à tes frais la forêt pour qu'il n'y ait pas d'incendie, etc., pour respecter certains cycles. Et donc, il se trouve qu'il y a du bois tous les ans. Comme l'État t'oblige à le couper, qu'est-ce que tu peux en faire? Généralement, ça fait des palettes. Et moi, je m'étais dit, je vais essayer de faire du papier toilette avec. Sauf qu'en fait, c'est un bois de pas bonne qualité du tout. Donc, il se trouve que je suis vite revenue là-dessus parce que malheureusement, on pouvait pas l'utiliser. Mais je me suis dit, c'est quand même trop dommage de couper un arbre exprès pour un papier à usage unique. Donc, tu vois, ma démarche, c'était de dire, on va utiliser un bois qui est de toute façon coupé, c'est obligatoire. Mais au lieu d'avoir un bois coupé, je vais aller sur du recyclé. C'est-à-dire qu'en France, t'as plein de papier recyclé, de carton recyclé. Les gens le font assez bien de recycler chez eux. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait pas, c'est que derrière, on l'utilise pas. Donc, t'as des millions de tonnes, sans exagérer, de papier recyclé ou de carton recyclé qui dorment, mais sans usage. Tu vois? Donc, l'idée, c'est pas aujourd'hui, forcément, de dire aux gens, attention, si tu recycles pas ton papier, ça va être la fin du monde. C'est plutôt.
Non, mais c'est perdu, c'est du gaspillage, en fait.
Un petit peu, parce que ça coûte aussi de l'argent, etc. Donc, l'idée, c'est plutôt d'inciter les marques à utiliser ces papiers qui dorment, tu vois. Donc moi, je me suis dit, ça va être ma première case à cocher, du papier recyclé. La deuxième case à cocher, qui m'a toujours tenu à cœur, c'est le Made in France. Alors déjà, il y a l'aspect local, mais il y a aussi le fait que c'est un engagement social, tu vois. En France, on a la chance d'avoir des salariés qui sont bien traités, avec des conditions sociales de ouf. On l'a vu pendant la crise, le chômage partiel, c'est quand même assez dingue, tu vois. Donc voilà, il y a plein de choses.
Combien de temps il va durer d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était assez fou. D'ailleurs, toi, tes équipes, vous étiez combien?
Non, moi, j'ai pas pratiqué. À un moment, j'ai eu un peu peur, et puis je me suis dit que j'avais pas forcément envie de profiter de ce système-là avant d'être sûre d'être vraiment dans la mouise, tu vois. Donc du coup, j'ai préféré attendre, et finalement, j'ai bien fait.
Parce dans la merde, on peut le dire, tu vends du PQ. Hein,
voilà, exactement.
Je dégage.
Et d'ailleurs, mon mari aime beaucoup dire « ma femme est dans la merde », ça me fait beaucoup rire.
Moi, j'aime bien ton mari, je valide ton humour, tu lui diras qu'il a une fan de son humour.
Voilà. Et donc, non, heureusement, on n'a pas eu à le pratiquer, et j'en suis très contente, mais je trouve que c'est génial pour les boîtes qui sont vraiment dans la difficulté, quoi.
Bien sûr.
Donc, il y a eu...
Vous êtes combien, d'ailleurs, tu m'as pas dit?
Alors, moi, je suis la seule associée opérationnelle. J'ai un board qui est assez actif, mais qui n'est pas à temps plein, évidemment, et qui est composé d'entrepreneurs, de DG, qui me conseillent vachement bien sur des sujets sur lesquels, moi, je maîtrise moins.
Un think tank un peu un think
tank. Voilà, exactement, un peu ça. Sur plein de sujets. Par exemple, il y a un ancien DG d'Unilever, donc lui, très grande conso. Il y a une des associées du slip français, donc ça va plutôt être sur la dimension marketing et même un peu indus aussi. Donc voilà, plein de gens comme ça.
C'est génial.
Puis ensuite, j'ai une CDI qui s'appelle Florine, qui s'occupe de toute la partie acquisition non payante, donc les réseaux sociaux, la newsletter, le service après-vente.
Elle va pouvoir relayer l'empreinte partout sur les réseaux de Poppy.
J'espère, exactement.
On la contactera. On va
passer par mail, exactement. Et puis, un stagiaire en business development sur la partie B2B. avec notamment un recrutement en cours, donc avis à d'éventuels stagiaires qui seraient intéressés aussi pour prendre un stage de 6 mois à partir de septembre. Voilà, j'en profite.
C'est bien de le mentionner. Non, mais c'est bien de le mentionner. Hein, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent. Et puis j'ai vu que dans l'empreinte, sur l'empreinte, j'avais pas mal aussi d'étudiants justement qui cherchaient des entreprises à sens. Donc voilà, c'est bien. On te fait passer le message si vous voulez rejoindre une super boîte.
Cool.
Audrey, du coup, cherche. Donc continue, Soumé. Donc je t'avais coupé pour parler
des employés,
de l'effectif.
Et donc c'est une petite équipe de 3 personnes. Avec, comme je te disais, la case à cocher du recyclé, la case à cocher du Made in France, et puis une autre case aussi qui était vraiment sur la partie santé. Moi, je suis un peu hypochondriaque, je t'avoue, enfin, ça va mieux, mais un petit peu quand même. Et donc,
je crois qu'on l'est toutes devenues là. Soyons honnêtes,
ouais, mais je me suis un peu calmée avec le Covid, justement, sur des trucs débiles. Mais bon, j'essaie quand même de pas mettre n'importe quoi sur ma peau, surtout qu'en plus, je trouve que là, en ce moment, je suis enceinte, donc je fais encore plus gaffe. Et c'est vrai que l'absence de produits toxiques, c'était assez important pour moi, surtout que c'est une partie très intime. T'as pas envie de savoir qu'il y a du chlore, du colorant, même du parfum, tu vois. L'idée, c'est pas de dire aux gens, c'est du parfum.
Tu sais que je me suis toujours méfiée des papiers de toilette parfumés, moi. Je m'en suis toujours méfiée, je sais pas pourquoi.
Bah, c'est pas très bon pour la peau dans tous les cas. Tu rajoutes, on va dire, un agent qui est pas naturel, et donc forcément ça déstabilise. Après, il y a des gens qui le supportent très bien, et puis après ça peut créer aussi à terme mycoses, hémorroïdes, et ça c'est des choses qui sont prouvées.
Voilà, c'est l'amour, tout ça.
Ouais, c'est mon métier. Voilà,
d'accord. Et donc tes usines, pour parler cru, elles sont dans les Landes ou elles sont...
Alors non, parce qu'en fait, dans les Landes, t'as pas d'usine qui fait du papier blanc, donc t'as que du craft. Ça, je l'ai découvert aussi en travaillant sur Poppy. Hein. Et donc, comme je me suis retrouvée avec un peu le bec dans l'eau sur cette histoire de recycler, je me suis dit, je vais essayer de trouver des industriels qui seraient d'accord pour travailler avec moi. Mais je voulais des indépendants, avec tout ce dont je t'ai parlé, donc c'était assez difficile finalement, il n'y en avait pas 30 000. Et finalement, je me suis super bien entendue avec une petite boîte familiale qui est en Normandie, qui est dans le Cotentin. Magnifique d'ailleurs, c'est magnifique. Franchement, c'est paumé, mais c'est vraiment magnifique. Je le conseille pour tous ceux d'ailleurs qui comptaient partir en vacances en France et qui n'ont pas
Eu l'idée,
c'est magnifique. Et donc, cette usine-là a accepté de travailler avec Poppy. C'était sympa de leur part, je pense, parce que quand tu es une toute petite boîte, forcément, tu fais des petits volumes. C'est pas certain que ça va marcher, donc ils personnalisent quand même aussi la chaîne de production, etc. Et eux, ils ont fait ce pari-là. Ils trouvent que ça a très bien marché, donc je les en remercie. Je les en remercie encore. Et donc, ensuite, je me suis dit, puisqu'il y a cette usine qui est en Normandie, autant respecter la promesse du local et faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit autour de cette usine. Et donc, cartonnier, imprimeur, logisticien, j'ai essayé de trouver des fournisseurs tout autour de l'usine à moins d'une heure et demie les uns des autres. Donc, tout le monde se trouve en Normandie.
Oh, génial.
Voilà.
Et tu me disais donc que tu avais plusieurs types de clients, donc les clients comme moi, les particuliers, mais des professionnels. Mm-hmm. Professionnels, comment tu les... Parce que pour moi, convaincre des professionnels qui doivent acheter quand même des quantités assez conséquentes de papier toilette, de se positionner sur du green, comment tu as fait? Quelle dynamique? Du coup, quels sont aussi ce type de professionnels, si tu peux m'en parler, qui justement souscrivent à Poppy, quoi?
En fait, tu as deux types de modèles économiques avec les entreprises. Soit c'est de la vente directe, donc je vends directement à ton entreprise pour équiper les bureaux, par exemple. Soit c'est de la vente indirecte, et là, tu as 2 sous-modèles dans ce modèle-là. Soit tu vends à des revendeurs, donc des épiceries, des petits supermarchés, uniquement bio. On a aussi des clients vrac, voilà, mais on est sur ce positionnement-là pour l'instant uniquement. Et puis, le deuxième modèle indirect, c'est ce qu'on appelle du facility management. En gros, les entreprises de nettoyage qui viennent nettoyer les bureaux, tu vois, c'est eux qui viennent disposer, en fait, les rouleaux de papier toilette. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire là, c'est de vendre à ces gens-là pour qu'eux-mêmes développent Poppy auprès de leurs clients entreprises.
Des donc, évangélistes, c'est en fait, un système d'ambassadeurs, c'est génial.
Exactement. Et des sociétés de nettoyage, c'est des gens qui sont peu connus, c'est pas forcément très sexy. Et par exemple, un autre combat social là qu'on mène avec d'autres boîtes d'ailleurs, c'est pas des startups, c'est plutôt des PME du nettoyage, donc ils sont moins connus, mais c'est de faire reconnaître aussi le rôle des agents de nettoyage, parce qu'on en a très peu parlé pendant la crise. On va très peu en parler, et c'est vrai que c'est assez dramatique, parce que c'est plus de 50% des sans-papiers à qui que tu croises tous les matins, enfin toi, pas toi Alice hein, personnellement, mais qu'on croise en fait chacun tous les matins, ouais, et en fait on parfois on dit même pas bonjour, tu vois, alors que c'est des salariés comme tout le monde, donc il y a aussi un travail qu'on essaie de mener dans les entreprises pour faire reconnaître le rôle de ces gens, parce que là, pour le coup, on va en avoir bien besoin dans les prochains mois pour être sûr que tout est propre, etc. Donc, on va faire une petite campagne sur le sujet, je pense, à la rentrée de septembre.
Vers septembre, du coup, quoi, en septembre. D'accord.
Ouais,
et quels sont tes prochains challenges, vu qu'on est un peu sur cette pente-là, dans notre conversation? Quels sont les prochains... Oh là là, je vais y arriver. Les prochains enjeux. En même temps, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches?
Ouais.
Comme ça. De Poppy, puisque bon, là, tu as eu, je pense, hein, quand même une consommation, même si les professionnels n'étaient pas très présents, tu as eu une belle consommation des particuliers qui vont même pouvoir évangéliser aussi Poppy. Hein,
carrément.
J'espère. D'ailleurs, comment tu fais pour les fidéliser, ceux-là? Pour les fidéliser et les rendre ambassadeurs, évangélistes? Tiens, je veux juste te dire aussi que ça y est, Florine a repartagé la story. Donc, elle est plus ça opérationnelle.
Ah, parfait. Ouais. Ah non, elle est CDI. Florine, elle est
oui, CDI. Donc, je valide. Elle est hyper
réactive. Super.
Non, mais du coup, quelles sont... j'ai même perdu ma propre question. J'étais sur les enjeux,
les enjeux, puis tu me disais l'acquisition, fidélisation, c'est ça?
Au choix. Bah en fait, je pense que les deux, tu peux répondre même aux deux en même temps, finalement.
Bah, en fait, ouais, tu as raison, je crois que je vais me positionner là-dessus. Je vais l'intégrer justement comme enjeu, l'acquisition. C'est un vrai sujet. En fait, il y a deux sujets sur les particuliers et un autre un peu plus strat. Le premier, c'est évidemment acquérir de nouvelles personnes, parce qu'en fait, comme toute marque qui vend en ligne, c'est difficile de toucher les bonnes personnes au bon moment, avec quel canal, etc. Parfois, ça coûte cher. Moi, j'ai un peu l'obsession de la rentabilité, donc j'ai jamais levé de fonds, j'ai toujours autofinancé ma boîte et j'espère pouvoir continuer à le faire. Ce qui fait que je peux pas, faire de l'acquisition en masse comme vont faire certaines boîtes qui ont levé beaucoup d'argent. Donc, il faut être malin dans les différents canaux utilisés. Et puis, le deuxième sujet, tu as raison, c'est la fidélisation, comment on fait des ambassadeurs. Ça, c'est un sujet sur lequel je me trouve pas très forte, je t'avoue. Donc, va falloir s'améliorer, il va falloir trouver des bonnes pratiques, faire des partenariats avec des marques.
Les réseaux sociaux aussi, hein. Honnêtement, ouais, comme c'est mon métier, pour te le dire, ça marche beaucoup quand même, hein, l'évangélisation.
Ouais, on essaie de beaucoup l'animer. Après, un truc qui marche très bien, mais plus pour de l'acquise, c'est le mailing aussi. Donc, on fait du mailing accessible. Finalement, ça, en tout cas, tu peux mesurer facilement, tu vois, ton retour sur investissement. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis après, le sujet, l'enjeu strat, c'est la diversification produit. Et en fait. Être un peu un grossiste 2.0 des papiers à usage unique, tu vois, c'est intéressant. Et donc, j'ai demandé plusieurs protos pour de l'essuie-tout, des serviettes de table. Ça m'a été demandé par les restaurateurs beaucoup. Pour essayer justement d'arriver à décliner le recyclé, le made in France et le sans produits toxiques sur l'ensemble des papiers à usage unique.
Et les donc, mouchoirs.
Les mouchoirs aussi. Alors, les mouchoirs, j'ai demandé un proto, mais pour de la boîte en carton, parce qu'en fait, la petite boîte individuelle, elle est difficile à produire et très, en fait, ils produisent pas en France ou très peu. Donc, il faut quand même arriver à rentrer dans ces trois cases-là, tu vois, ce qui est pas toujours évident. Et donc voilà, il y a plein d'axes possibles.
Ouais, mais en même temps, ça fait qu'un an et je trouve ça génial. T'as plein de projets, t'as plein d'envies. Et je sais pas, j'ai une bonne énergie. Je pense que ça va cartonner. Mais on est sur du papier. Ça va, voilà. Mais je sais pas, je le sens. Mais je te dis, j'ai eu un coup de cœur en écoutant Tous Ensemble. Un autre podcast. Et je me suis dit, faut que je t'aie dans l'empreinte. L'empreinte, le papier de toilette. Je trouve pas que ça a une petite,
Ah, il y a quelque chose,
synergie. Il y a un truc à faire. Non, mais écoute, est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Des choses que je n'aurais pas abordées, du coup, avec toi?
Écoute, non, je trouve juste, sur puisque tu parlais de l'empreinte et du nom, je trouve ça très, très intéressant de ne pas avoir forcément le terme d'impact, justement, tu vois, qui veut beaucoup dire beaucoup de choses. L'empreinte, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as le fait de laisser une trace, rejoindre le papier toilette, mais surtout t'as aussi le fait que ton empreinte, elle peut être positive, elle peut être négative, et je trouve que c'est intéressant quand t'es chef d'entreprise de réfléchir à ce que tu peux laisser, quoi. Et en fait, parfois tu fais les bons choix et puis parfois tu fais les mauvais choix, mais malheureusement c'est un peu tard. Et c'est particulièrement vrai quand tu travailles dans l'économie sociale et solidaire au sens très large, c'est que t'as des choix à faire Et c'est difficile de faire les bons avant d'être sûr que ce soit la bonne solution. Par exemple, le recycler. Tu vois, t'en as qui vont me dire, ouais, mais ça consomme vachement d'eau. C'est vrai, en même temps, ça a un impact carbone inférieur. Enfin, voilà. C'est toujours essayer de prendre des décisions.
En fait, finalement, il faut quantifier ce que tu perds, ce que tu gagnes, et puis voir à la fin, c'est dans le positif ou dans le négatif, finalement.
C'est ça.
Pareil pour les trottinettes électriques, hein, ça fait un scandale parce que derrière, il y a tout le fait du réassort parce qu'elles sont cassées, faut aller les chercher tous les soirs. Enfin, voilà, donc c'est ces mêmes dynamiques.
Et c'est sur le long terme qu'on verra si notre empreinte est positive ou pas, voilà.
Bah merci beaucoup Audrey, franchement merci. Ah oui, j'ai oublié de préciser que cet épisode était encore fait à distance, mais comme la qualité du son me paraissait excellente, j'ai carrément oublié de le préciser. Merci Audrey, merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous pouviez nous mettre quelques petites étoiles sur Apple, j'adorerais, ça nous aiderait aussi à faire grandir l'empreinte. Bonne journée à tous.